pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il faut prendre les choses à la racine. Il ne faut pas se protéger des pesticides, il faut interdire les pesticides.
Il faut interdire les pesticides. Chlordécone, glyphosate, acétamipride et tous les autres. Pesticides, herbicides, fongicides. Quand ça se termine en « cid », ça veut dire « qui tue ». En témoigne l'épidémie de cancer, Parkinson, leucémie et autres maladies qui frappent massivement. Nous sommes tous intoxiqués, et ce n'est pas l'effet du hasard ou de la malchance, cet empoisonnement de la population est le résultat de choix politiques, conscients et volontaires, majoritairement de députés de droite et d'extrême droite, au service des lobbies agro-industriels. C'est notamment ce que dénonce le collectif Cancer Colère.
Le mensonge est devenu quelque chose de normal dans le discours politique, et que ça c'est une bascule. Aujourd'hui, ça pose plus aucun problème que des hommes et des femmes politiques mentent, et notamment dans des lieux importants comme l'Assemblée nationale. Quand on a Annie Genevard qui brandit le rapport de l'INRAE et qui lui fait dire l'inverse de ce qu'il dit.
Actuelle ministre des pesticides de l'agriculture.
Quand elle dit ça, elle ment, elle sait qu'elle ment. Elle nous regarde droit dans les yeux et elle sait qu'on sait qu'elle ment. Mais elle le fait quand même. C'est d'une violence inouïe. Mais c'est fait pour déstabiliser, parce qu'en fait derrière, c'est compliqué de trouver les arguments face à quelqu'un qui est un mur et qui ment. On est dans du mensonge. C'est ce côté trumpiste en fait de la fabrique d'une vérité alternative. En fait, on peut dire n'importe quoi, tout se vaut. On est dans des vérités alternatives quand on est à l'Assemblée nationale et ça pose pas de problème.
Alors, on a effectivement dépassé le stade du bon vieux mensonge politicard à la papa. 2026, ère du trumpisme triomphant, c'est le règne du climato-scepticisme et autres dénis de science. Les scientifiques alertent, il suffit de dire que la science se trompe, casser le thermomètre pour effacer la fièvre et nier qu'en 2025, plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition contre la loi du plomb. Sénateurs et exploitants au service des lobbies agro-industriels, ces fermes-usines, ces méga-bassines, ces poisons chimiques à gogo, dont la fameuse acétamipride, néonicotinoïde tueur d'abeilles, qui ne tue pas que les abeilles. Et une seconde pétition anti-loi du plomb est sortie, puisque du plomb est remonté à la charge pour imposer l'acétamipride. Mais l'offensive législative ne s'arrête pas là. Arrive maintenant l'épouvantable loi d'urgence agricole, toujours au service de l'agro-industrie, plus les directives omnibus européennes qui détricotent les lois de protection de l'environnement. Offensive au service des marchands de poisons Bayer Monsanto, Bayer qui fabriquait le Zyklon B des nazis, Monsanto qui fabriquait l'agent orange de la guerre du Vietnam, c'est la même molécule que le Roundup. Mais un peu partout, des ripostes s'organisent contre ces projets mortifères. On en parle dans ce carnaval anti-duplon du dimanche 26 avril 2026 dans les rues de Tours, en région centre. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est lavoixoff.com et pour votre radio libre préférée. Après le printemps silencieux, le printemps est bruyant, déterminé et joyeux.
Bonjour à tous. Alors je suis Caroline de Cancer Colère. On est là parce qu'il y a un peu moins d'un an, on était des millions de personnes à signer une pétition pour dire qu'on voulait défendre le vivant, défendre les êtres vivants. Et en réponse, le gouvernement a amplifié la réaction. Une offensive législative, on doit répondre en urgence. Là, aujourd'hui, il y a une situation de péril imminent. Il y a la loi du plomb 1 qui est en train d'être appliquée, parce qu'on l'a oubliée celle-là. Elle a été votée, mais là, elle est en train d'être appliquée. Il y a la loi du plomb 2 qui arrive. Il y a la loi d'urgence agricole. Il y a les directives omnibus. Et on en passe. Et on entend de plus en plus un discours qu'on appelle un backlash écologique, cancer backlash, c'est-à-dire qu'il y a un discours qu'on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur la télé, dans les journaux, et qui devient de plus en plus insupportable. On essaye de nous discréditer, de discréditer les malades, de discréditer la science, de discréditer les paysans. Et donc on est là aujourd'hui pour dire qu'on reste là, qu'on reste unis, qu'on a la science avec nous, qu'on a le vivant avec nous. Oui, rappelez quand même la présence de Cancer Colère ici. Vous n'avez pas la chance encore aujourd'hui d'avoir une antenne dans le 37, mais on vous invite à vous réunir et à le faire. Donc il y a le Cancer Colère ici de la Vienne, de la Sarthe, de Loire-Atlantique, d'Eure-et-Loire. J'oublie quelqu'un?
Est-ce que vous pourriez dire un mot pour les Antilles et le chlordécone?
Ah ben, bien sûr qu'on est là pour parler du chlordécone, pour parler du colonialisme chimique, et on partage la lutte avec les camarades antillais.
Merci, merci. Applaudissez.
Le carnaval ici était aussi un écho au printemps bruyant qui a eu lieu début avril à Paris et qui recommencera l'année prochaine dans d'autres villes, partout. En fait, printemps bruyant, c'est un mouvement en écho évidemment au printemps silencieux de Rachel Carson. Ça fait 60 ans que les scientifiques le disent, le savent et le claironnent que des pesticides, les biocides, ça tue et c'est normal, c'est fait pour ça. Et qu'aujourd'hui, on en voit les conséquences aux Antilles, on en voit les conséquences sur nos corps, on est là pour le montrer. Et donc, aujourd'hui, on est là pour se rencontrer avec toutes les organisations, pour se rencontrer, pour discuter entre nous. En fait, toute la marche, c'est pour faire du bruit, pour faire entendre qu'on est là, mais c'est aussi pour parler entre nous, pour organiser les choses à venir, pour essayer de comprendre ce que font les orgas les unes les autres, pour les gens qui ne sont pas encore militants, qui ne sont pas encore dans des orgas, pour essayer de voir ce qui se passe et ce qui peut leur coller. Plein de choses à faire parce que bientôt, dans un an, il y a les présidentielles. Donc il y a les lois là qui arrivent. C'est urgent de dire qu'on est là et qu'on se fait entendre, mais il y a les présidentielles. Donc là, c'est un marathon qu'on commence et on a besoin d'être tous ensemble. Merci à tous et de toute façon, on se retrouve pendant la marche.
Pendant la prise de parole de Caro de Cancer Colère, vous aurez peut-être entendu cette personne noire et probablement d'origine antillaise qui a aussi cité le chlordécone, pesticide employé pour tuer le charançon du bananier et qui, depuis des décennies, tue aussi des générations de Martiniquaises et de Martiniquais, de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens qui survivent sur des terres désormais durablement empoisonnées. On en parle avec Nadine, qui connaît bien la Martinique, cette colonie française.
Bonjour Nadine.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ton t-shirt?
Il y a marqué chlordécone, parce que j'avais pas la place de mettre toutes les infos sur la chlordécone que j'aurais voulu mettre. C'est carrément une honte. C'est un engrais pour les bananes qui a été reconnu mauvais pour la santé depuis très longtemps. En 1976, les États-Unis l'ont retiré du marché. La France a enlevé l'autorisation de mise sur le marché en 1990, sur le territoire hexagonal. Pour les Antilles, où ça servait pour les bananes principalement. On a laissé aux exploitants, les béquets hein, pour la plupart, les blancs propriétaires des terres, on leur a laissé 3 ans de plus pour l'enlever de leur culture. Ce qui fait que pendant ce temps-là, des milliers d'Antillais qui travaillaient sur les plantations ont continué d'être infectés et en plus on a ensuite continué à donner des délais supplémentaires pour écouler les stocks. Parce que bien sûr, il ne fallait pas perdre d'argent avec la chlordécone qui était stockée. Par contre, la vie des personnes qui travaillaient dans les plantations, c'était bien moins important.
Les autorités ont estimé que ce produit, il est dangereux et qu'il donne des maladies en métropole. Mais le produit, il est inoffensif aux Antilles, c'est ça ?
En gros, ça revient à ça. Au bout d'un moment, il y a quand même eu une prise de conscience aux Antilles.
Une prise de conscience parce qu'il y a une épidémie de tout un tas de maladies.
Il y a les cancers qui montent en flèche, en particulier le cancer de la prostate chez les hommes. Et il y a aussi le myélome. Enfin bon, la moyenne sur la population, il y a un taux de cancer absolument anormal. Et aussi sur les grossesses, c'est-à-dire qu'il y a énormément de naissances prématurées, il y a des enfants mal formés, mais ça dure depuis des années, c'est-à-dire que c'est pratiquement de père en fils, de mère en fille. Enfin, moi, je vois les gens qui viennent dans l'organisme qui essaye d'obtenir des réparations. Souvent, ils demandent réparation pour eux, sont atteints, ils ont un cancer, mais ils savent que leurs parents sont morts de ça aussi. Et on leur demande de le prouver. Bon, pas évident. Mais en fait, ça dure depuis quelques générations déjà. Donc, il y a un procès pour obtenir réparation de la part de l'État français. Et à la grande colère des Antillais, pas de réponse. Il y a eu un non-lieu en première fois. Et là, en juin 2026, on attend la réponse du tribunal qui doit statuer sur l'appel qui a été fait. Mais là, en juin, on attend la réponse, c'est-à-dire savoir si l'État français reconnaît ce que la chlordécone a provoqué dans la population antillaise, alors qu'elle était interdite dans l'Hexagone, mais toujours autorisée là-bas. et s'il va y avoir des réparations. Alors pour l'instant, il y a des gens qui obtiennent des petites pensions, des petits dommages d'intérêt, mais c'est tellement minime, enfin, le nombre de personnes qui en ont bénéficié, c'est tellement minime par rapport aux ravages que ça a fait. C'est-à-dire que là, on estime que 99% de la population antillaise a dans le sang un taux de chlordécone supérieur à ce qui est reconnu vivable. Donc 99%, parce qu'il n'y a pas que les travailleurs sur les plantations. Maintenant, le chlordécone, alors on dit le chlordécone pour le produit, la chlordécone pour la molécule. Alors ça, okay, voilà, c'est pour ça que ça passe de l'un à l'autre souvent. Le chlordécone est complètement infiltré maintenant dans les terres, dans l'eau, donc dans tout ce qu'on fait pousser dans la terre et qu'on arrose. Donc c'est pratiquement impossible maintenant sur le sol antillais de ne pas être contaminé par ça. C'est un vrai drame.
Et le lien entre là et le chlordécone et les maladies a été scientifiquement établi. En fait, tu disais si les États-Unis, si même les États-Unis, les États-Unis ont retiré ça, si même en métropole, ça veut dire que le lien scientifique entre le produit, la molécule et les maladies, il a été établi. Parce que s'il y a des gens qui touchent des compensations, c'est bien qu'on reconnaît.
Ce qui est reconnu, c'est le taux de maladie, le taux de cancer et de maladies qui est surreprésenté sur un échantillon de population. C'est anormal.
Bon. C'est aussi sur ces flous scientifiques que s'appuient les fabricants de poisons.
Oui, évidemment. Par contre, là, ce qui est difficile à nier, c'est que 99% de la population antillaise a dans le corps plus de chlordécone que ce qu'on estime bon pour la santé. Je suppose qu'ils ont déterminé un taux.
Quand on dit « mais non, la France n'est plus une puissance coloniale », si, enfin, ça s'appelle du colonialisme chimique, ça s'appelle de l'exploitation, ça s'appelle empoisonner les gens pour faire du fric.
C'est ressenti comme ça, de toute façon, par beaucoup d'Antillais. Alors, je ne vais pas généraliser, mais énormément d'Antillais le ressentent comme ça. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Cazet qui se termine par « Madinina, l'île aux fleurs est toujours une colonie ». Madinina, c'est le nom de la Martinique en créole.
Sais-tu comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne. Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime. Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies. Mais putain, sais-tu encore qu'aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie.
Quelque chose qui m'avait frappé, c'était pendant la pandémie de Covid, quand on a eu le vaccin mis à disposition et qu'ils ont commencé à l'envoyer aux Antilles, je me suis dit, mais ça va être une catastrophe. Les gens ne vont jamais vouloir le prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été, les gens refusaient. Et je me disais, mais comment ils peuvent imaginer que des gens qu'ils empoisonnent depuis des années vont prendre volontairement un vaccin qui vient de l'Hexagone, on leur dit si, il faut le prendre, c'est bon pour vous. Et les gens ne voulaient pas le prendre, ça a été une catastrophe, ils ne voulaient pas se faire vacciner. Et c'était quelque chose de tellement prévisible, je me suis dit, ça montre vraiment la méconnaissance. Les dirigeants ministères de l'Outre-mer, ils n'ont aucune idée de l'histoire et de la société avec laquelle ils traitent quoi, quand il s'agit des Antilles. Et ce sont des médecins guadeloupéens qui sont allés sur le terrain pour convaincre un maximum de gens de se faire vacciner contre la Covid. Sinon, les gens étaient trop rétifs, quoi. On refuse ce qui vient de là-bas. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est assez ancien, mais il y a eu un moment où la France faisait des essais nucléaires du côté de Tahiti.
Oui, à Mururoa, 95. Oui, il y en a eu avant, mais ça s'est poursuivi sous le règne de Chirac.
C'est vraiment le symbole du fait qu'on prend ces territoires qui sont censés être français, qui sont à des milliers de kilomètres, qui sont censés être français, c'est quasiment les poubelles. Ce qu'on ne veut pas chez soi, on va le mettre là-bas, c'est pas grave. Si on va le faire très 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 loin, c'est qu'on se doute qu'il peut y avoir des choses pas terribles qui arrivent aux gens qui habitent dans le coin.
Et c'est de la violence coloniale.
Complètement, mais cette violence coloniale, elle existe à plein de niveaux différents. Là, par exemple, en mars, il y a eu le procès de 11 personnes qui avaient déchouqué, comme on dit, déboulonné des statues. La statue de Joséphine, la statue de Schœlcher, qui est censée être le grand artisan de l'abolition de l'esclavage. Et ils sont passés en procès. Bon, il y a eu un non-lieu, heureusement, mais c'est signe d'une violence coloniale Ces gens vivent dans des endroits où les grands boulevards, les rues, ce qui représente la République, c'est en fait le symbole des gens qui les ont exploités, qui les ont niés en tant qu'individus pendant toute la période de l'esclavage, quoi. Et ça les met très en colère de se balader dans des boulevards Gallieni ou...
C'est comme si on avait des rues Pétain ou des boulevards Hitler ici. Ouais.
Voilà, exactement. Donc là, bon, il y a eu un coup de colère et ils ont mis à bas plusieurs statues. Ils ont éclaté la tête de Joséphine. Bon, ça a dû faire du bien.
Connais-tu le morne et la ravine? Le béquet qui très souvent tient les usines. La maquerelle qui passe son temps chez la voisine. Et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellé et la savane? Les pêcheurs du Carbet, le poisson de tartane. Et les touristes aux seins nus à la plage des Salines. Pendant que la crise de la banane s'enracine.
Nadine, j'ai une question probablement idiote à poser. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Est-ce que nous, notamment en tant que consommateurs, est-ce que arrêter d'acheter des bananes, est-ce qu'on peut agir par le boycott, par exemple?
Je pense, enfin, c'est mon avis personnel, c'est trop tard, puisque bon, maintenant, effectivement, on n'utilise plus la chlordécone dans la culture, mais tout le sol en est imprégné. Et en même temps, l'industrie de la banane, sans ça, la Martinique ne survit pas. Mais en même temps, c'est vrai que les bananes doivent être contaminées, elles aussi, par la chlordécone. Mais si tu manges quelques bananes de Martinique et de Guadeloupe, de temps en temps...
Surtout pour venir en soutien à nos concitoyennes et concitoyens des Antilles, en disant bon...
En même temps, c'est leur enlever un des rares moyens de faire fonctionner l'île, parce que l'économie de l'île, elle est quasiment par terre. Il n'y a que la banane, le rhum, la canne à sucre avec le rhum, quoi. Le café, je pense que maintenant, ça se fait plus que très peu. Non, c'est compliqué. Moi, je crois que la meilleure façon de soutenir, c'est de faire du foin autour de ça. Par exemple, quand il va y avoir le jugement du procès au mois de juin, c'est de faire du battage autour de ça, d'expliquer à tout le monde ce qui s'est passé, quoi. Comme pendant 3-5 ans, on a continué sciemment d'empoisonner les gens. Parce que c'est les gens qui travaillaient, quand elles racontent leurs conditions de travail sur l'exploitation de bananes, passaient à côté tout le temps, enfin j'étais vraiment les pieds dedans, si je puis dire, quoi. Et ça, on l'a continué longtemps. Maintenant, c'est plutôt essayer de reconnaître et d'obtenir réparation. Et scientifiquement, je ne sais pas, je recherche scientifiquement si, qu'est-ce qu'on peut faire pour la Martinique, si, maintenant que le sol est complètement imbibé de chlordécone, l'eau aussi, je ne sais pas. C'est un exemple typique des horreurs que peuvent faire les pesticides et surtout de comment le profit passe en premier. Surtout quand c'est le profit des propriétaires de terres au détriment de la santé des travailleurs du coin.
Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, à ma famille.
Toujours dans le cortège de ce carnaval anti-Duplon, on tombe sur Gilles Deguay de France Nature Environnement.
Bonjour Gilles.
Bonjour, il y avait longtemps.
Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une manif ensemble. Je crois. La dernière fois que j'ai dû tendre ce micro, je crois que c'était à Sainte-Soline, hein, il y a 3 ans.
Heureusement qu'il y a les manifs.
Les réponses sont toujours plus complexes que les questions. Il y a des gens qui me disent très benoîtement, il n'est pas prouvé par la science que tous ces produits en CID, fongicides, herbicides, etc., donc CID qui tue, hein, donnent des maladies aux gens qui mangent de la nourriture empoisonnée. La science n'a pas encore prouvé qu'il y a un rapport de cause à effet entre ces poisons qui tuent et l'épidémie de cancer et autres maladies. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça?
C'est une méconnaissance de comment on travaille sur les questions d'épidémiologie. Si tu prends un poison et que tu crèves dans les 2 jours, on fait des analyses, on retrouve des traces du poison, c'est bon, on sait que c'est ça qui t'a tué. Là, on est sur des poisons que tu absorbes petit à petit, qui s'accumulent, qui se croisent avec d'autres, etc. Et donc, faire la preuve absolue que c'est un machin que tu as bouffé il y a un mois ou deux mois qui a causé ta mort, c'est vachement difficile. Parce qu'il y a toujours un lobbyiste bien intentionné qui dit « Ah oui, mais le monsieur là, peut-être qu'il fumait, peut-être qu'il a eu un stress machin, etc. Et tout. » Toutes les mesures individuelles posent tout problème. Et tu es obligé de travailler sur des statistiques. Avec des statistiques, les gens qui bossent réellement, sérieusement, ils donnent des probabilités. Et donc tu as cancérogène possible. Possible, ça veut dire juste qu'il est possible. Les gens qui disent c'est pas prouvé, ils ont une part de vérité. Quand il y a marqué probable ou attesté, mais il y a l'incertitude absolue que dans un voisinage où il y avait une source, il y a deux fois ou trois fois plus de cancer que partout ailleurs. Et donc c'est ça qui dit que ça a fait mourir les gens. Et donc on n'a jamais de preuve complète et c'est sur ça que travaillent les gens qui te filent du poison. Ils te filent du poison, mais ils ont du monde, parce que ces gens-là, en général, ne font pas que faire de produire de la saloperie, ils la vendent aussi, et ils la vendent cher. Ça leur fait des bénéfices, et ça leur donne les moyens de mener des combats de toutes sortes sur des questions scientifiques, nourrir des études qui sont entièrement payées par eux et qui ressortent comme ça. Et donc, ils essayent de semer le doute, mais ça, on sait ça sur le tabac, hein, je veux dire. Et c'est les mêmes techniques. Faites attention, ils ne vont pas refaire une deuxième loi du plomb, ils en ont déposé une, mais ils vont faire ça bien plus subtilement et bien plus sournoisement.
Du plomb remonté à la charge pour oui. imposer l'acétamipride, mais... qui est le seul truc finalement qui a sauté après les plus de 2 millions de signatures qu'il y a eu pendant l'été 2025. Alors, oui aux fermusines, oui aux mégabassines, oui aux pesticides à gogo, sauf l'acétamipride, et puis non finalement on vous la recolle.
Ce que ça signifie, c'est que ces gens-là s'en tapent éperdument. Ils ont un projet, il faut avancer, et leur projet, il est plus vaste que ça. Leur projet, c'est de se réapproprier pratiquement toute la nature. Dans cette optique-là, tout ce qui la défend est sur leur chemin. Et donc, il faut qu'ils arrivent à le déconsidérer, à lui enlever du pouvoir, etc. La quintessence de ça, c'est la loi d'urgence, la LUPSA.
La loi d'urgence agricole ?
Oui, c'est dans celle-là que tu verras qu'il ressortira des amendements qui réintroduiront d'autres saloperies au fur et à mesure.
Dans ce qui rajoute aussi dans ces lois écocidaires, là, c'est aussi faire sauter le principe de précaution. Feu vert pour les marchands de poison, allez-y, balancez vos molécules. Ouais. On n'a pas le temps de vérifier si ça tue des gens ou pas.
Mais très probablement, moi j'ai entendu aussi que la charte de l'environnement, ils l'ont à travers de la gorge. Et s'ils peuvent profiter du fait qu'en ce moment, ils ont des politiques qui sont complètement à leurs bottes, s'ils pouvaient aussi récupérer ce truc-là, c'est un machin qui est considéré comme un progrès par tout le monde depuis 20 ans. Et je rappelle que c'est Chirac quand même qui l'a mis dans la... et tout. Et bien celle-là, ils essaieront de la rechoper. Et s'ils peuvent, ils le font.
Grâce au glyphosate, on a tous une grosse prostate. Grâce au fongicide, on n'a plus de thyroïde. Haute valeur environnementale et tumeur colorectale. Merci, Bayer Monsanto. On a tous droit à la chimio. Grâce au chlordéco, on se fait changer les poumons. Merci, Bayer Monsanto. On est malade dès le berceau. C'est dans l'eau. Bayer, on t'a tous dans la peau. Tu nous débarrasses des oiseaux qui font caca sur nos chapeaux.
Il y a des choses qui sont mortelles pour l'homme directement. Et puis il y a des choses qui sont mortelles pour tout l'environnement de l'homme. Et l'homme, au bout d'un moment, quand il n'a plus d'environnement, il ne vit plus non plus. D'accord ? Et donc, quand tu as des pesticides, tu as beaucoup d'insecticides, tu n'as plus d'insectes. Tu n'as plus d'insectes, tu n'as plus d'oiseaux pour les bouffer. Parce que les oiseaux n'ont plus rien à bouffer, donc il n'y en a plus. Ça, on sait ça, on sait tout ça dans nos campagnes. On a tous constaté qu'il y avait plein d'oiseaux qu'on n'avait plus, il y avait plein d'insectes qu'on n'avait plus. Les rivières, c'est catastrophique. Il y a plein d'espèces de poissons qui n'existent plus, etc. Et ça, au bout d'un moment, ça rend la vie des humains complètement insupportable et complètement pas possible. Si tu n'es pas tué directement par le poison, t'en fais pas, le poison il te récupère ailleurs.
réponse technosolutionniste, comme on dit. Hein, c'est bon, bah oui, vous allez peut-être développer des cancers, mais vous inquiétez pas, la science travaille sur des médicaments pour soigner ça. La science est toujours supposée corriger. C'est la fuite en avant vers des pseudo-solutions.
On ne va pas chercher la cause, mais on prend le truc tel qu'il est et on va corriger les choses derrière. Ça a aussi le terme de mesure compensatoire. Tu as fait une connerie, tu fais une mesure compensatoire. La logique est toujours la même. Une fois que tu as fait une mesure compensatoire, cette mesure compensatoire est dramatique aussi.
Elle a un impact corrigé par elle-même une autre mesure pseudo-compensatoire.
Et tu es rendu à certains endroits à la cinquième mesure compensatoire de la compensatoire de la compensatoire. Intervenir sur des milieux qui sont fragilisés et artificialisés comme ça, ça devient totalement insoluble. Et tu n'as plus d'autre solution que de continuer à artificialiser.
Je reviens à ces poisons. Alors, il y a l'effet, ce qu'on appelle l'effet cocktail. Plein de poisons différents qui s'associent entre eux, et ceux qu'on respire, ceux qu'on trouve dans la nourriture, ceux qu'il y a dans l'eau. Tout ça fait des cocktails qui n'ont pas encore été étudiés. Et...
c'est pas tout à fait vrai que c'est pas étudié, parce qu'il y a belle lurette qu'il y a des scientifiques qui se sont dit, mais tel effet avec tel effet, qu'est-ce que ça produit? Et ça produit probablement plus que l'effet cumulé des deux, parce que ça produit un autre effet supplémentaire qui est lié à la combinaison. Il y a des gens qui bossent là-dessus. Il y a des labos à Orléans. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie de la chimie sort des molécules à une vitesse folle. Et à chaque fois, avec des intérêts complètement limités.
Intérêt, si ce n'est de faire du fric à ceux qui les fabriquent et qui les vendent.
Pas seulement, tu as entendu parler des PFAS. Qu'est-ce qui les caractérise, les PFAS?
Polluants éternels, comme on dit, pour aller vite.
Pourquoi ils sont éternels? Parce qu'ils sont remarquablement solides, parce qu'ils durent, parce qu'ils ne se cassent pas. On constatait qu'on n'arrivait pas à les enlever. Mais en fait, quand on les a fabriqués précisément parce qu'ils ne se détruisaient pas. D'accord ? Les gens qui les mettent dans la nature savent pertinemment que ce n'est pas un hasard, c'est pas un « oh, il reste trop longtemps, j'avais pas prévu ça » et tout. C'est prévu pour qu'ils durent longtemps. Il y a même des molécules dans lesquelles on réintroduit des radicaux de PFAS pour qu'elles durent plus longtemps. Donc tu as des trucs qui sont déjà des pesticides qu'on fait, qu'on recharge pour qu'elles durent plus longtemps. Ce flux de molécules, alors il y a eu un moment où il devait y avoir un règlement REACH qui prévoyait plus ou moins qu'on ne pouvait pas balancer des trucs sans les avoir d'abord complètement expérimenté, d'avoir regardé ce qui se passe.
Le fameux principe de précaution.
C'est ça, sauf que ce n'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on les balance, et après toi tu cours derrière. Alors déjà il faut que tu trouves comment les trouver, comment les analyser, comment retraiter, etc. Et tu fais un boulot fou sur une molécule et pendant ce temps-là ils t'en pondent 10 autres.
Sachant qu'on ne trouve que ce qu'on cherche.
De toute façon tu ne peux pas faire autrement. Ouais. Alors, il faut que tu étudies la molécule, il faut que tu le fasses et tout. Mais ce qui est le compte, c'est que c'est à toi de le faire. C'est pas le mec qui balance sa saloperie dans le truc, qui paye tout de suite. Il fait une petite étude comme ça, puis après, tu découvres ça.
Alors, quand on a des discussions avec des gens incrédules qui disent « Mais non, c'est pas les produits de Bayer-Monsanto, c'est pas tous ces machins au CID qui donnent des maladies. » Est-ce qu'il y a des sources qui sont fiables? Je sais pas, Organisation Mondiale de la Santé, OMS, qu'est-ce qu'on peut consulter pour dire « Mais non, mais si, regarde... »
En général, les résultats de l'OMS sont tout à fait fiables. Si tu veux vraiment faire des trucs par rapport à une étude, tu regardes qui sont les signataires et tu regardes où ils bossent. Quand tu es sur une étude qui a été faite que par des mecs de Monsanto, tu as une petite chance qu'ils ne trouvent pas des choses qui déplaisent à Monsanto. Tu veux que je te raconte ce que je vais faire mardi?
Qu'est-ce que tu vas faire mardi?
Je vais aller contribuer à écrire le ZAG, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui concerne tout le bassin de Loire et Bretagne.
On rappelle aussi, toi, tu sièges aussi au comité du bassin Loire-Bretagne.
C'est ça. Et donc, à ce titre-là, on fabrique, mais on est 190 hein, pour faire ça. Hein. Sauf que les lobbies industrialo-agricoles ont décidé que c'était scandaleux, on passait par-dessus leurs intérêts, et donc ils sont en train d'organiser systématiquement les sabotages de ces études-là. Et donc, ils vont manifester pour qu'on ne sorte pas le texte dans les délais qui étaient prévus.
Donc ça veut dire qu'ils ont peur?
Bien sûr, ils ont peur des résultats. On n'a absolument pas peur de l'argumentaire, mais on a peur de l'arbitraire d'un État qui prend le parti d'un lobby contre l'intérêt général. Et ça, c'est dramatique.
On a bien vu, hein, la ministre des pesticides, enfin la ministre supposée de l'agriculture, actuellement c'est Genevard. La FNSEA demande des cadeaux de Noël et puis le gouvernement, la ministre, s'occupe de les lui apporter. Enfin, on a l'impression que le gouvernement est aux ordres de ces lobbies agro-industriels, de Bayer, de Monsanto, de la FNSEA.
Oh, c'est presque pire que ça. Par la FNSEA, on va sortir des projets de loi, des projets de projets de loi, et on les retrouve in extenso dans les projets de loi qui sont déposés. Donc, ils tiennent un peu le stylo, quoi.
face à ces multinationales qui ont de l'argent en masse pour financer de la communication, des lobbyistes, y a des citoyens, des citoyennes en face avec leurs simples moyens.
Je ne vais pas dire ça parce qu'on est dans des pays civilisés, d'accord, quand même, un peu. Hein. On a créé des instances qui n'avaient probablement pas assez de moyens, mais qui en avaient, pour assurer une forme d'analyse, de fonctionnement et tout. Ça s'appelle l'agence de l'eau, en l'occurrence. Et c'est précisément parce que ces instances-là ont les moyens de faire de l'analyse scientifique impartiale qu'elles sont particulièrement attaquées et qu'on essaye de les empêcher de bosser pour pouvoir faire passer des machins facilement et tout, de la simplification, des trucs, un peu des espèces de vérités qui ne sont pas des vraies vérités, mais un peu comme ça, des trucs un peu trumpistes, quoi. Je ne suis pas pour dire qu'on est totalement démunis, mais par contre, si on n'y fait pas gaffe, on le sera, oui.
Non, tu parlais de trumpistes, ça nous renvoie aussi à un truc, c'est que il y a une nouvelle stratégie, je ne sais pas si c'est nouveau d'ailleurs, depuis la grande vague anti-vax, là, du Covid notamment, on a beaucoup entendu « ton avis vaut bien le mien, mon ressenti vaut bien le tien, la science se trompe, chacun voit midi à sa porte, etc. Enfin, » On est quand même en pleine mode de ça, quoi, la science se trompe.
Mais ça, jusque-là, si tu veux, c'est du débat, tu trouves ça con et tu parles. Mais je veux que tout le monde se rende bien compte. Quand ils arrivent au pouvoir, tu regardes ce que fait Trump. Il a enlevé les instituts économiques et qui concluaient au fait que le chômage augmentait. Le chômage augmente, il dissout le truc.
Casser le thermomètre pour faire disparaître la fièvre.
Absolument, il dissout l'analyse. Ils ont supprimé comme ça des trucs partout. Tu penses que le dérèglement climatique, il ne faut pas en parler. Tu interdis aux gens de le publier. Ils ont interdit à des gens de publier les résultats qu'ils donnaient. Quand ils ont le pouvoir, ça donne ça. Et en ce moment, on a des lobbies agricoles qui ont le pouvoir grâce au gouvernement actuel. Et on a des volontés tout à fait exprimées de supprimer toute une série de choses qui sont considérées comme inutiles, précisément parce que c'est les seuls obstacles à la diffusion d'intérêts strictement privés.
Et ils criminalisent même les gens qui publient.
Ça, ils interdisent les publications, ils font tout ce qu'il faut pour le supprimer. Et donc il faut savoir ça. Et aussi, les associations comme les miennes, elles ont des fonctions de service public. Si elles n'étaient pas là, il y a toute une série de données que tu verrais jamais. Elles ont une fonction d'alerte. Si tu les assassines complètement, et ce n'est pas si compliqué que ça, alors on résistera, on trouvera les moyens, mais quand même... Et tu regardes un certain nombre de...
On veut des paysans et des paysannes qui vivent dignement. On veut manger sans s'empoisonner.
Tout le travail qu'ils font sur tout ce qui est les modes de fonctionnement de la société. On a vu des collectivités locales qui ont changé de majorité et dans lesquelles la majorité, quand elle arrive, la première chose qu'elle fait, c'est sucrer des éléments sur la culture, des éléments sur les associations. Ce que tout le monde doit bien comprendre, c'est que quand tu sucres ça, tu ne sucres pas le superflu, tu sucres ce qui permet à la société de vivre.
Carnaval anti-Duplomb du dimanche 26 avril 2026, deux scientifiques prennent la parole, l'un en rébellion, l'autre en blouse blanche.
Bonjour, je me suis déguisé en médecin aujourd'hui, non pas parce que j'adore porter la blouse, mais parce que je pense qu'il n'y en a pas assez qui sont dans les rues. Il n'y a pas assez de soignants et encore moins de médecins qui sont dans les rues avec nous pour défendre des projets d'intérêt public. Et c'est pour ça que je me suis déguisé aujourd'hui.
Moi, je suis un représentant de scientifiques en rébellion. C'est une branche des scientifiques qui en a marre de documenter en fait l'effondrement du monde, de la biodiversité, de l'augmentation du climat, et qui a décidé en fait de rentrer en rébellion, donc en écho avec le carnaval d'aujourd'hui.
Malheureusement, aujourd'hui, on est encore tous et toutes réunis pour lutter contre l'absurde. A priori, tout est permis quand il s'agit de faire du profit, comme réintroduire donc des néonicotinoïdes qui éliminent les insectes pollinisateurs, qui contaminent les rongeurs, les chauves-souris, les oiseaux qui s'en nourrissent, qui s'infiltrent dans nos sols jusqu'aux nappes phréatiques et qui atteignent les vers de terre, qui se mélangent à l'eau. Chez l'humain, il touche aussi de plus en plus de personnes, et surtout, il les touche de plus en plus jeunes. Il augmente le risque de cancer, ça, on l'a bien vu, de maladies métaboliques aussi, comme le diabète, par exemple, c'est un peu moins évident, et des maladies neurodégénératives, comme Parkinson. On en est à un stade aujourd'hui où... Quand on découpe le cerveau des gens une fois qu'ils sont morts pour faire une autopsie des personnes atteintes de maladie de Parkinson, on s'aperçoit qu'il y a des concentration beaucoup plus élevée de pesticides dans les zones spécifiquement atteintes du cerveau qui font cette maladie.
Moi, je suis neuroscientifique, justement. Donc, si on s'intéresse aux effets de l'agro-industrie sur le cerveau, les neurosciences, aujourd'hui, ils apportent pas mal d'éléments préoccupants. Trois points. Le premier, c'est d'abord l'alimentation. L'industrialisation agricole a favorisé la consommation d'aliments ultra transformés, riches en sucre, en graisse, en additifs. Or, ces régimes sont associés à des modifications du fonctionnement cérébral, notamment des zones qui jouent dans la mémoire et la flexibilité. On observe aussi des effets sur le circuit de la récompense. Donc, le circuit de la récompense, c'est ce qui nous motive à faire nos actions dans la vie de tous les jours, et directement sur les systèmes même impliqués dans les addictions. Donc, en soi, aujourd'hui, on est toutes et tous addicts à ce système-là et donc à cette nourriture de l'agro-industrie. Ensuite, il faut considérer aussi l'exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Certaines de ces substances peuvent atteindre le cerveau et perturber le développement neuronal. Donc, tu parlais en fait des maladies neurodégénératives, donc tu arrives plutôt sur le tard. Mais on peut aussi parler en fait des troubles neurodéveloppementaux, donc qui vont commencer dès le début à l'âge de la jeune enfance. Enfin, l'agro-industrie aussi agit directement sur le microbiote intestinal. Donc, on parle souvent en fait du second cerveau. Le second cerveau, ça va être le ventre. Et donc, directement, en fait, ça va déclencher en fait des petites perturbations au niveau du microbiote qui va directement après influer directement sur nos comportements et donc sur le cerveau. Dans ce contexte, la loi du plomb 2 apparaît en contradiction avec les connaissances scientifiques. Continuer à encourager ou faciliter l'usage des substances potentiellement neurotoxiques malgré les signaux accumulés pose un véritable problème de cohérence en matière de santé publique. Il est donc difficilement justifiable à la lumière des données actuelles et donc de neurosciences de soutenir une telle orientation. C'est donc une décision qui mérite d'être clairement remise en question.
On accumule un peu de savoir, on a des preuves, mais on ne nous écoute pas. On dira que c'est rien, que ces concentrations sont très basses si elles sont contrôlées. Ça s'appelle tout simplement de la désinformation. Quand on nous dit que c'est à nous, victimes, de s'enfermer chez nous derrière des doubles vitrages pendant qu'il y a des épandages, de laver nos légumes et nos fruits, de les éplucher, de jeter grassement tous les éléments contaminés, est-ce qu'on a vraiment envie de ce monde-là? Et puis moi, je pense aussi au petit chevreuil qui est dans les rares bosquets qui restent et qui ne pourra pas se mettre dans son double vitrage au moment des épandages. Ce poison, il dépasse complètement celles et ceux qui l'utilisent. Ceux qui font les lois n'accordent vraiment aucune importance aux faits. On l'a bien vu justement aux Antilles, où on a battu le record du monde de cancer de la prostate. Ils le savaient à l'époque, hein, les politiques, ils le savent toujours, mais ils ont décidé sciemment de battre ce fameux record et de polluer les terres pour des milliers d'années. C'est ce qui se passe ici aussi et qui va continuer à se passer. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est à nous de nous battre contre ça.
Bonjour Sist.
Bonjour.
Tu as retiré ta blouse blanche que tu avais mise symboliquement tout à l'heure pour cette prise de parole, une blouse blanche parce que tu es soignant.
Je suis soignant dans ma vie de tous les jours, je suis soignant quand je bosse. Je ne suis pas très attaché au symbole, donc la blouse, ce n'est pas quelque chose que je mets au quotidien. Là, je trouvais ça important de me visualiser en tant que soignant parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez dans nos rues.
Soignant, c'est médecin, infirmier?
Alors, c'est tous les corps de métier qui ont envie, ouais, de prendre soin des autres personnes, hein. Dans ma vie, je suis médecin généraliste, mais voilà, c'est justement, c'est pas un titre qui est plus honorifique qu'un autre, ce qui est le cas dans la société et que j'aimerais bien déconstruire un peu sur ce plan-là. Et on a tous et toutes besoin les uns et les unes des autres, et voilà, donc soignant.
Alors, il y a deux choses que je retiens de votre prise de parole, parce que tu étais avec un camarade de scientifique en rébellion avec toi tout à l'heure. Un, oui, il y a bien une relation de cause à effet entre tous ces poisons chimiques qui se terminent en SID et les épidémies, cancer, sclérose en plaques, Parkinson, etc. Deuxième chose, on ne nous écoute pas. D'abord, revenir, parce que c'est un écueil sur lequel je tombe souvent, et parfois de la part de gens bien intentionnés, simplement qui sont trop laissés infuser par les médias dominants. Mais non, la science n'a pas établi de causalité entre les trucs en SIDE et les épidémies de maladies qui nous frappent tous, amis, famille, connaissances, proches. On connaît tous quelqu'un de malade et qui, hélas, a pu en décéder, même, je pense, à plusieurs personnes. Donc, est-ce que tu veux bien confirmer, toi aussi, cette causalité, comme on dit, non, ce lien entre les produits chimiques qu'en face, ils osent appeler phytosanitaires? On pourra s'interroger sur l'adjectif sanitaire. Premier truc, oui, il y a bien un lien de causalité.
Bah déjà, une pensée pour ces personnes que tu connais, enfin, toutes les personnes qui sont décédées, passées, qui vont décéder aussi à cause de ça. Le problème qu'on a, je pense, en tant que scientifique, c'est qu'on cherche la vérité, l'exactitude absolue, et on ne la trouve pas sur ces choses de la fin, on ne la trouve pas. Oui, il y a des preuves scientifiques qui font la corrélation entre pesticides, cancers, maladies neurodégénératives, comme Parkinson notamment. Mais c'est très difficile à chaque fois de pouvoir dire c'est ce pesticide qui a fait ce cancer, et entre guillemets uniquement ça. Mais il y a des très grands rapports, notamment il y a un rapport de l'INSERM qui a fait une méta-analyse. Ils ont pris toutes les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, avec des niveaux de preuves qui sont différents. Ils les ont triés, ils les ont classés, et en reprenant toutes ces données-là, ils ont fait un résumé, et là, ils ont pu montrer que quand même, oui, il y avait des niveaux de preuves plus ou moins importants entre les pesticides et entre ces maladies. Maintenant, il y a une chose qu'on appelle la désinformation, qui permet justement de gagner du temps, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a une étude scientifique, il y a cette sacro-sainte précision où on va se dire oui, mais on ne peut pas encore trop parler parce qu'on n'a pas la certitude absolue. Et en face, on a des agro-industriels qui veulent gagner de l'argent, tout simplement, hein, qui eux vont dire bah oui, vous voyez, ils ne sont pas sûrs à 100%. Et puis nous, on a fait nos propres études aussi, et puis on a vu que c'est des concentrations qui sont très, 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 très faibles. Une goutte d'arsenic, ça ne fait pas du bien non plus. Et c'est une concentration très, 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 très faible. Mmh. Et puis surtout, on veut toujours cette preuve sur des maladies chocs, des choses où on pourrait mettre un nom derrière quelque chose. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi rester sur du bon sens. Ces pesticides-là, aujourd'hui, leur mécanisme de fonctionnement, notamment les néonicotinoïdes, c'est de venir détruire le système nerveux des insectes. Donc on a envie que ça détruise ce qu'on appelle les ravageurs de nos monocultures, parce que c'est ça le vrai problème, en fait. Tous les insectes qui ont un système nerveux, donc tous les insectes, ils sont détruits aussi. Puis ces insectes, ils vont être mangés par des oiseaux, par des rongeurs ou autres, qui vont être atteints aussi. Ça va s'infiltrer dans nos sols, ça va s'infiltrer dans l'eau. Nous, on va être contaminés.
Nous aussi, humains, oui, on a un système nerveux.
Humains, nous sommes des animaux, en fait. Des fois, c'est un grand mot, mais nous sommes des animaux et on est touchés aussi, forcément. Les personnes les plus proches du pesticide lui-même, donc les agriculteurs, les agricultrices, les riverains, riveraines qui sont autour des champs, c'est les personnes les plus atteintes. Donc on a des cas beaucoup plus importants dans les familles d'agriculteurs et d'agricultrices. On a des cas de cancer beaucoup plus importants dans les personnes qui vivent au milieu des champs à la campagne. La campagne n'est pas un lieu aussi sain que ce qu'on pourrait croire. Alors on a toujours tendance à penser, oui, c'est les grandes villes. Alors oui, il y a la pollution directe dans les grandes villes, mais il y a cette pollution aussi dans les campagnes. Et après, en fait, attention, scoop, nous buvons de l'eau, nous mangeons des produits qui ont poussé dans ces champs-là, et en fait, il y a une contamination par ce biais-là aussi. Et donc, du coup, oui, c'est pas en mangeant une carotte qui a reçu le pesticide où on va directement avoir le cancer parce qu'on a mangé cette carotte-là, c'est bien plus complexe que ça. Et les agro-industriels jouent sur cette ambiguïté-là pour gagner du temps, parce que leur but, le temps c'est de l'argent, c'est de gagner du temps.
Sur côté, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que on parle beaucoup du glyphosate ou de l'acétamipride, parce que voilà, c'est des produits phares, si tu me passes l'expression. mais en fait, tout ça se mélange, quitte à dire une énormité scientifique, avec les PFAS, avec le cadmium, avec les nanoparticules de plastique, avec voilà. Et quand il y a des études, souvent, on ne trouve que ce qu'on cherche.
Pour vous donner un exemple de la difficulté, ça se mélange même avec nos modes de vie. On s'est rendu compte que le bruit ambiant, le bruit constant qu'on a, ça favorise les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. C'est pas évident de faire cette corrélation-là. Donc en fait, oui, en effet, c'est très compliqué, mais cet effet cocktail, on peut pas se baser uniquement sur une dose individualisée. Quand on fait des études, on a besoin d'individualiser les choses pour justement le pointer du doigt, et c'est très difficile de prouver ces choses-là. Donc je pense qu'il faut qu'on se remette un petit peu au bon sens. On a des produits qui viennent tuer le système neurologique d'insectes. Bon, ça paraît pas être très sain, quoi. Je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on se base là-dessus. Et oui, il y a des difficultés chez les agriculteurs et les agricultrices qui sont prises dans un étau par ce système-là productiviste. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut savoir revoir. Très récemment, il y a eu une étude au niveau agro-industriel qui est sortie aussi, où ils ont montré qu'en fait, on arrive à faire du bio, que ça fonctionne très bien, qu'il y a des très bons rendements. Parce que si on parle rendement, très bien, parlons rendement, il faut qu'on se nourrisse. Dans ce cas-là, déjà, diminuons notre quantité de produits animaux. Il faut 7 fois plus de terre pour nourrir un animal et ensuite le manger que si on voulait nourrir les personnes humaines avec du végétal. Bon, bah déjà, réduisons notre quantité de consommation animale et puis comme ça, on aura à manger pour tout le monde sans faire des monocultures énormes remplies de pesticides qui, en plus, marchent de moins en moins bien. On a de plus en plus besoin de rajouter... Les produits sont de plus en plus puissants pour continuer à fonctionner un petit peu, marchent de moins en moins bien, les rendements sont en train de se casser la gueule parce qu'on a complètement détruit le sol et le vivant qu'il y a à l'intérieur. Et quand on couple ça à l'augmentation du prix du pétrole qui est lié à d'autres joyeusetés géopolitiques, ben en fait on se rend compte que ça va coûter encore plus cher. Donc c'est toujours pareil, il y a toujours plein de choses. Là aussi il y a un effet cocktail tiens, qui se met sur l'utilisation de ces pesticides. C'est un système qui est à bout de souffle. Les agriculteurs et agricultrices achètent leur engrais la saison d'avant pour la saison actuelle. Pour cette saison, ils n'ont pas de surcoût pour la production de légumes ou autres avec utilisation de pesticides. Mais par contre, ils vont acheter cette année des produits chimiques qui vont payer plus cher. Et c'est l'année prochaine qu'on paiera les produits plus chers. Est-ce qu'on va faire le lien à ce moment-là? Est-ce qu'on va le dire tout haut? Je ne sais pas. Peut-être, j'attends de voir.
Tu es soignant, donc tu vois des gens malades. Cancer, sclérose en plaques, Parkinson, l'épidémie, tu la constates aussi dans ton quotidien. Et est-ce que le mot épidémie te convient?
Le mot épidémie me convient quand je lis les données. 30% de plus de cancer chez les enfants, oui, on peut appeler ça une épidémie. Après, c'est très difficile de le voir au quotidien parce que, encore une fois, c'est des choses complexes qui s'entremêlent. Quand je vois une personne en face de moi qui a un cancer, mais je sais aussi que cette personne, elle a des habitudes alimentaires, qu'elle fume, c'est difficile pour moi de faire le lien sur le court terme. Par contre, quand on est renseigné, je pense que ça nous marque un petit peu plus. Tout à l'heure, tu disais on ne trouve que ce qu'on cherche, mais on ne voit que ce qu'on connaît aussi. Et on ne tient pas les registres. Enfin, là aussi, ça se corrèle dans un monde soignant qui est exsangue. On essaie de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et du coup, on n'a pas le temps non plus. Enfin, le temps, c'est quelque chose qu'on prend pour ce qu'on veut. Donc, on fait des choix dans la vie. Mais y a beaucoup de mes collègues qui trouvent qu'ils n'ont pas le temps d'aller se renseigner là-dessus ou de tenir des registres.
Enfin, les registres du cancer qui ont été votés en juin dernier, mais qui ont été appliqués que dans 24 départements, me semble-t-il. C'est forcément compliqué de comptabiliser le nombre de cancers. L'État n'a pas donné les moyens pour mettre en place ces fameux registres du cancer. C'est aussi une manière enfin voilà, de casser le thermomètre et d'invisibiliser la situation.
Je ne suis pas au courant de ces registres-là. Et c'est là que je trouve ça vraiment indispensable qu'on travaille avec des collectifs comme Cancer Colère, des personnes qui sont directement concernées par les choses. Donc là, on parle du cancer, c'est vous. Mais on a besoin de travailler ensemble et de sortir de ce dogme, de cette habitude où le médecin est le sachant. Ça, il faut qu'on arrête tout de suite et qu'on considère la parole des gens qui le vivent au quotidien déjà, qui taffent là-dessus et qui sont vraiment experts de ce qu'ils et elles vivent. Il y a tellement de choses à faire encore.
En fait, c'est pas parce que t'es le sachant et la blouse blanche qu'on t'écoute. Et ça, c'est un deuxième truc qui a émergé dans ton discours. C'est de toute façon, on gueule tout ce qu'on peut, mais en fait, on ne nous écoute pas.
Moi, je suis rentré dans ce constat-là, surtout avec les enjeux climatiques notamment. Quand on lit le Club de Rome, c'est des choses qui ont été écrites dans les années 70, où on disait exactement finalement ce qui allait se passer, puis c'était toujours « ah oui, mais c'est des chiffres, ça va peut-être pas arriver comme ça, ou peut-être pas si vite ». Et en fait, aujourd'hui, on voit les changements climatiques arrivent beaucoup plus vite que ce qui était prévu à la base. Les scientifiques, qui font les choses de manière scientifique, donc indépendante, je veux dire par là, leur but, c'est pas de faire peur aux gens, leur but, c'est juste de partager leurs connaissances. Et ces connaissances-là, quand elles vont pas dans le sens des personnes qui gagnent de l'argent, il y a cette ambiguïté qui se met en place. Donc oui, on n'est pas écouté au niveau politique en premier lieu, mais je pense parce que les politiques d'aujourd'hui fonctionnent en fonction, alors là, de l'agro-industrie, mais des personnes qui ont un pouvoir financier. Donc après, c'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que les personnes qui ont le plus d'argent aujourd'hui, c'est des personnes qui, dans l'ensemble, ne font pas les choses pour l'intérêt général. On ne peut pas se faire beaucoup d'argent si on fait les choses pour l'intérêt général. Si les personnes qui ont l'argent ne font pas les choses pour l'intérêt général, mais c'est ces personnes-là qui influencent les politiques d'aujourd'hui, on ne va pas aller vers des décisions qui sont prises pour l'intérêt général. Donc je pense que tous les moyens sont bons pour balayer la parole scientifique. Et c'est là que c'est un écueil dans lequel je crois qu'on est un peu trop bisounours sur le sujet. En fait, on se veut prudent sur les données qu'on fournit. Et encore une fois, c'est très bien parce qu'il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi. Mais on arrive à un stade où même quand on dit pas n'importe quoi, même quand on dit des choses basées, on va aller chercher la petite bête et essayer de, de gagner du temps sur ces...
Ou tout simplement dire, les scientifiques racontent n'importe quoi, j'y crois pas.
C'est ce qui se passe outre-Atlantique, ouais.
Caro de Cancer Colère fait un bond et fait « Ouais !»
Parce que tu dis « On peut nous reprendre sur des virgules, sur tout ça » et qu'ils se servent d'ambiguïté pour retoquer votre parole. Mais au-delà de ça, le mensonge est devenu quelque chose de normal dans le discours politique et que ça, c'est une bascule parce qu'en fait, jusque-là, on avait des représentants du peuple qui parfois tournaient un peu autour du pot ou essayaient de minimiser les choses ou pour défendre des sujets, leur paroisse. Mais aujourd'hui, ça pose plus aucun problème que des hommes et des femmes politiques mentent, et notamment dans des lieux de pouvoir et des lieux républicains, des lieux importants comme l'Assemblée nationale. Quand on a Annie Genevard qui brandit le rapport de l'INRAE et qui lui fait dire l'inverse de ce qu'il me dit, droit dans les yeux, elle sait...
L'actuel ministre des pesticides de l'agriculture.
Quand elle dit ça, elle ment, elle sait qu'elle ment, elle nous regarde droit dans les yeux et elle sait qu'on sait qu'elle ment, mais elle le fait quand même. Et ça, c'est complètement déstabilisant, c'est d'une violence inouïe quand on se prend ça, mais c'est fait pour déstabiliser, parce qu'en fait, derrière, c'est compliqué de trouver les arguments face à quelqu'un qui est un mur et qui ment. On est dans du mensonge. C'est plus qu'aller chercher la virgule. Enfin, là, on est passé dans une ère trumpiste.
Il ne peut pas y avoir de débat avec des gens intellectuellement malhonnêtes.
C'est ce côté trumpiste, en fait, de la fabrique d'une vérité alternative et de dire, bah, en fait, on peut dire n'importe quoi, tout se vaut, c'est pas grave.
Et vu d'ici, je t'avoue que la Terre m'a l'air assez plate. Moi, je ne vais pas te lancer là-dessus.
Non, mais c'est exactement ça. On est dans des vérités alternatives quand on est à l'Assemblée nationale et ça ne pose pas de problème, en fait. Et c'est assez grave.
Donc en vrai, la Terre, elle n'est pas plate, hein, on est bien d'accord.
Hein. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe. Elle dit ça pour l'INRAE, elle dit ça aussi pour l'EFSA. Elle dit non, mais nous, on s'est appuyé sur les considérations de l'EFSA pour l'acétamipride. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, l'EFSA? Elle dit bah, oui, on sait que c'est dangereux et c'est pour ça qu'on préconise de diviser par 5. Donc si ce n'était pas dangereux, on ne préconiserait pas de diviser par 5. Le taux d'acétamipride, c'est son seul argument, puisqu'elle n'a aucun argument, c'est de dire « Ah, bah, l'INRAE et l'EFSA... » Non, l'INRAE et l'EFSA disent l'inverse. Donc ça, on n'est pas sur du pinaillage de virgules, on est sur du mensonge et sur la construction d'un discours de vérité alternative.
Mais je pense que là, on est sur le signal d'un système qui est à bout de souffle. Quand c'est les dernières armes qu'on a de fonctionner comme ça, c'est qu'on arrive à la fin de quelque chose, on le sait, et tant mieux, il y en a eu assez.
Tu l'as mentionné tout à l'heure, un ressort qui est aussi activé, c'est vous êtes malade, c'est de votre faute. C'est des retours de chakra, vous avez été vilain dans des vies antérieures, ou vous avez fauté, Dieu vous punir. C'est ou tu fumes trop, tu bois trop, tu fais pas assez de sport, tu manges pas 5 fruits et légumes, plein de pesticides ou pas par jour. Cette culpabilisation des malades.
Ouais, c'est ça que j'adore chez notamment Cancer Colère en fait. Jusque-là, la colère c'était quelque chose qu'il fallait contenir parce que...
Ouais, c'est pas feng shui la colère, ça aide pas à faire du yoga.
Il y en a marre et ce discours-là il tient plus non plus. Là aussi je pense qu'on peut se poser des questions sur pourquoi les gens fument, pourquoi ci, pourquoi ça. Je pense qu'il y a plein de raisons à tout ça, mais surtout on a le droit de mener une vie libre. Les gens qui fument savent très bien que s'ils ont un cancer du poumon, ce sera probablement lié à ça. Ce n'est pas ces gens-là qui vont dire que c'est à cause des pesticides. Les gens qui sont en colère, c'est ceux qui, déjà au début, ne comprennent pas pourquoi. Le problème, c'est quand on finit par comprendre que ce n'est pas juste le fruit du hasard. C'est là, je pense, qu'il y a quelque chose qui ressort et où on ne supporte plus ce discours qui est paternaliste. Là, je parle pour les personnes que j'ai eues en face de moi. Et il y a une autre chose aussi, c'est que c'est très facile de dire aux gens de faire attention, alors qu'à côté, on peut avoir des... prise de décision, enfin des pratiques qui sont complètement absurdes. Et ça aussi, je pense qu'il faut qu'on stoppe avec ça, en fait. Il faut arrêter, si on veut vraiment protéger les gens. La Ligue contre le cancer a sorti un post il n'y a pas très longtemps en disant « Non, tous les pesticides ne donnent pas le cancer. Protégez-vous, mangez bio, épluchez vos légumes. » Et ça a créé une tollée. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, il faut que les personnes, quand elles lâchent des bombes, elles se reprennent des éclats dans la gueule. Je crois que c'est important maintenant.
Il y avait des tribunes qui étaient prêtes à partir dans tous les sens. Et on n'a même pas eu le temps tellement ils se sont rendus compte que bah non, c'est pas possible, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ils avaient sorti donc, non pour les pesticides et non la crème solaire. Et ils avaient fait un troisième en disant en alertant sur la désinformation. Et les trois le même jour, ils ont sorti. Et c'était quand même...
Mais ouais, voilà, je pense qu'il faut qu'on soit plus radical. Et ce n'est pas un gros mot d'être radical. Radical, c'est pas...
Radical, c'est prendre les choses à la racine.
Exactement, c'est pas être d'extrême gauche. Être radical, c'est vraiment prendre les choses à la racine. Si on veut vraiment défendre les gens, je pense que c'est là où il va falloir être plus honnête. Alors, c'est plus compliqué. Mais si on veut vraiment accompagner les gens aider à les défendre, se défendre soi-même, il faut prendre les choses à la racine. Donc en fait, il ne faut pas se protéger des pesticides, il faut interdire les pesticides. Dernière chose, oui. J'aimerais juste vraiment, vraiment inciter les soignants et les soignantes qui entendent ces mots de descendre dans la rue, d'écouter vraiment les patients, les patientes, les amis, la famille, les gens qu'il y a autour de nous. Il faut qu'on fasse corps et qu'on arrête ce séparatisme vraiment. Il faut vraiment que vous descendez dans la rue. Il y a plein de choses à apprendre. Et quand je dis dans la rue, c'est aux manifestations, mais c'est pas que ça. Moi, j'ai passé la journée à faire la cantine aujourd'hui, à faire des crêpes. C'est ça aussi, être dans les manifestations. Je n'étais pas en train de marcher dans le cortège. Et c'est dans ces moments-là que, déjà, on passe une super journée. Et puis, c'est dans ces moments-là qu'on parle avec les gens. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est d'arriver à discuter les uns les unes avec les autres. Et quand on est soignant-soignante, on fait partie de... On est les mêmes animaux que les autres. On fait partie de ce même monde. Et il faut qu'on soit vraiment dans le concret. J'aimerais que cet appel soit entendu. J'aimerais vraiment.
Et par tous, quand les soignants, les soignantes descendent dans la rue pour défendre notre hôpital, on a aussi le droit de les rejoindre. Voilà, cet hôpital qu'on est très content de trouver quand on est malade, bah on a aussi le droit de le soutenir quand ces soignants et ces soignantes sont dans la rue.
Et c'est pas qu'une question de temps. Dernièrement, j'avais pas beaucoup de temps à donner. J'ai pas pu participer à la hauteur de ce que j'aurais voulu, même en amont. Mais pour autant, je suis venu juste une journée. J'ai donné cette journée-là. J'aurais pu faire autre chose. Bon. Le temps, il s'articule. Les présences qu'on a chacun, chacune, elles ont vraiment leur valeur. Et je pense qu'il faut qu'on soit conscient et consciente de ça.
On a été 2 100 000 signataires de la pétition contre la loi Duplomb.
Si c'est la première. Hein,
la première. Mais en fait, on s'est dit, si juste ces 2 100 personnes font un truc, juste un truc, avant les présidentielles. Et un truc, ça peut être 5 minutes, 1 heure, une journée, 2 100 000 actions. Et engagement, et en fait ça peut être pas grand chose, comme tu disais, ça peut être venir faire des crêpes sur une manif, ça peut être plein d'idées en fait qui sont aussi rigolotes dans ce que Cancer Colère va proposer. Ça laisse à tout le monde le loisir de s'emparer de ça avec des moyens, sans moyens, avec du temps, sans temps. Il y a des milliards de choses à faire, dont des choses rigolotes, voilà, comme faire des crêpes, comme envoyer des cartes postales à des décideurs, comme tout le monde peut s'emparer de ça.
Et même si on ne fait rien, j'ai envie de vous dire aussi, les politiques, on vous voit et on ne votera plus pour vous. Il y en a qui votent plus pour vous depuis longtemps, mais on est de plus en plus nombreux et nombreuses à ne plus voter pour vous.
On vous voit et on se souviendra. Non, mais Élise Bordet a fait un post, c'est une chercheuse, et qui faisait référence à la tribune des 20 scientifiques dans la revue Science, qui disait, là, maintenant, on sait, c'est posé, c'est dans cette revue scientifique, quand on fera les comptes, on pourra dire... Nous, à cette date-là, c'était posé dans la revue scientifique, on le savait, et vous, vous avez voté ces lois-là. Vous êtes responsable et on saura venir vous chercher et vous dire, voilà, la date, elle est posée, vous avez voté ça en le sachant. Vous ne pouvez pas ne pas savoir quand vous allez voter ça. On s'en souviendra.
La seule chose qu'il faudrait en plus, c'est qu'il n'y ait pas d'impunité pour les personnes qui sont au pouvoir. Je pense que c'est ça aussi un gros point nodal. Et du coup, là, on a besoin de juristes, on a besoin d'avocats, d'avocates. Il faut vraiment qu'on soit ensemble, quoi.
Je reviens sur cette journée, là, que ce temps que tu n'avais pas forcément, mais que tu as consacré à nous parler et à faire des crêpes. On se rencontre, on se parle, on fait corps. C'était pas complètement du temps perdu.
Évidemment, mais bien au contraire.
C'est un truc qu'il faut dire quand même, c'est que ça fait du bien et que nos luttes, elles ne sont pas lugubres en fait. Malgré les circonstances, on arrive à rester joyeuses et joyeux quand même.
La colère, elle va avec la joie. C'est la même impulsion et elle est constructive, elle est fédératrice, elle regonfle, elle donne des forces. C'est formidable.
Et scientifiquement parlant, l'un des meilleurs moyens d'agir contre son anxiété, c'est d'être dans l'action. On ne bougera pas peut-être autant de portes que ce qu'on aimerait faire, mais en fait, ce qu'on fait, ça fait du bien, vraiment. Ça a été prouvé, ça pèse vraiment l'anxiété.
Et voilà les amis, si vous n'avez pas le moral, si vous êtes rongé d'éco-anxiété, on vous invite à suivre les bonnes préconisations de révolte, d'action et de joie du Dr Sist. Vous pouvez télécharger ce reportage via notre site, polemixetlavoixoff.com, avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio toujours libre préférée. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut!